Syllab, la radio sauvage.
Le samedi.
Faut juste oser, en fait, et poser aussi les bonnes questions.
Création, émission, fiction.
Les ateliers de radio Syllab dès 10h le samedi.
C'est pour ça que j'aime bien la radio.
Mec.
Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve avec Manon,
Camille,
Gueltas,
Corentine.
Aujourd'hui, nous allons voir comment le rappeur Nekfeu dénonce la société dans sa chanson On verra. Dis-nous, Corentine, qui est Nekfeu ?
Nekfeu, de son vrai nom Ken Samaras, c'est un rappeur et un acteur. Il est né le 3 avril 1990 à La Trinité, dans les Alpes-Maritimes. Il a énormément été critiqué après avoir fait la chanson On verra, car c'est une chanson qui dénonce beaucoup la société.
Il a commencé à se faire connaître dans le collectif L'Entourage, mais aussi grâce au groupe 1995, qui fait référence aux années 90 et Escrow.
Nous allons vous faire écouter un extrait de sa chanson afin de savoir ce qu'il dénonce.
On sèche les cours, la flemme marque le quotidien. Être en couple, ça fait mal que quand il tient. Même si j'ai rien à prouver, je me sens un peu seul. J'ai toujours pas trouvé la pièce manquante du puzzle. En possession de drogue, les jeunes sont faits tard. Quelle ironie de mourir en position fétale. Je viens à peine de naître, demain je serai vieux. Mais je vais tout faire pour être à jamais ce rêveur.
Dans un premier temps, Nekfeu parle de la flemme des adolescents quand ils vont en cours et dans le quotidien en général en disant « On sèche les cours, la flemme marque le quotidien ». Il parle de la nouvelle génération qui ne veut plus se déplacer pour faire des activités simples. Dis-nous en plus, Corentine, que dénonce-t-il d'autre ?
En second temps, il dénonce les jeunes qui possèdent des stupéfiants à leur âge et il dit dans son couplet « En possession de drogue, les jeunes sont fêtards ». Il dénonce le fait que les jeunes ne savent plus faire la fête sans drogue.
Nous allons vous faire écouter un second extrait de sa chanson.
Tout le monde rend fou, tout le monde est en guerre. Plus on se rend flou, et moins on voit clair. Quand t'as pas d'argent, dans ce monde t'as pas droit. Y'a ceux qui cassent en tête et ceux qui tapent à trois. Combien de fois j'ai volé par flemme de faire la queue. Mon papa me croit pas, mais ça me sente le tabac froid. On se fait chier au taf, on attend les camps va. On se parle derrière un ordi, mais en vrai, quand est-ce qu'on se voit?
Dans cet extrait, il dénonce également l'importance de l'argent en disant « Quand t'as pas d'argent dans ce monde, t'as pas de droit ». Il veut dire que l'importance de l'argent dans le monde est bien trop grande et trop importante. Plus on a d'argent, plus on en veut. Effectivement, dans ce couplet, il y a de fortes dénonciations. Il critique la communication virtuelle en disant « On se parle derrière un ordi, mais en vrai, quand est-ce qu'on se voit ?» Dans cette phrase, il dénonce les relations amicales comme amoureuses qui naissent généralement de manière virtuelle ou à travers les réseaux sociaux. Il dit aussi que les gens sont trop devant leurs écrans car s'ils n'y étaient pas, leurs relations virtuelles ne naîtraient pas. Ils auraient des relations plus humaines.
C'est un peu comme le Victor Hugo du XXIe siècle. Nous avons fini, nous espérons que vous en avez appris plus sur Nekfeu. Nous vous souhaitons une bonne journée, au revoir.
Les fake news.
Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve sur Syllab. Aujourd'hui, nous en parlons des fake news. Déjà, qu'est-ce qu'une fake news ?
Les fake news sont des informations créées de toutes pièces, un événement qui ne s'est jamais passé, une fausse statistique, une photo fabriquée, exemple, une vieille image de policiers thaïlandais tabassés pour annoncer sur les réseaux sociaux qu'une manifestation dégénère à Paris, ou encore 60 millions de réfugiés à venir en Europe. Ça, ce sont des fake news.
Maintenant, nous allons répondre à certaines questions. Pourquoi les fake news se propagent-elles ?
Les fake news se propagent vite car elles sont incroyables, inhabituelles ou même impossibles à croire. Pour que les fake news se propagent, il faut qu'elles touchent les personnes émotionnellement.
Comment les fake news se partagent-elles ?
Les fake news se partagent sur les réseaux sociaux comme Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat et Twitter. Elles touchent la plupart du temps les jeunes car ils sont beaucoup sur les réseaux sociaux.
Comment les repérer ?
Sur Internet, quand l'information est apparue, seulement sur peu de sites à l'URL bizarre dont vous ne connaissez même pas l'existence. Souvent, cela signifie qu'un média professionnel n'a été en mesure de la vérifier.
En cas de doute sur la fiabilité d'une source, on peut toujours entrer le nom du média dans la rubrique Décodex du Monde.fr, un précieux outil de vérification. Sinon, on peut taper ce même nom dans Google News.
Nous allons vous donner quelques astuces pour vous assurer que c'est une information fiable et pas une fake news.
vérifier la date de publication de l'article.
Il n'est pas rare que d'anciens articles ressurgissent sur les réseaux sociaux. Une information publiée à un moment donné peut être interprétée d'une manière complètement différente plus tard.
Vérifier la photo ou la vidéo.
De nombreuses fake news ont pour support une image. Il est facile de se faire piéger. Il suffit parfois de changer le cadrage d'une photo pour cacher un détail, par exemple. Et le sens de celle-ci pourra être complètement modifié. Vérifier l'origine de la photo est un bon réflexe.
Vérifier la source.
Assure-toi de connaître la source de l'information, même si tu as juste reçu le titre de l'article, une photo ou un lien. Attention, il y a certains sites qui copient l'apparence de grands médias et utilisent une adresse web similaire.
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé. Salut.
Les aléas de l'agriculture.
Bonjour, nous sommes Flora, Louis et Romane, des élèves de 4e du collège Saint-Michel, à Saint-Thomas-d'Aubigny.
Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux agriculteurs rennais. Nous allons nous poser les questions suivantes.
Quels sont les types d'aléas que les agriculteurs peuvent rencontrer?
Quels aléas précisément?
Comment y font-ils face? Mais d'ailleurs, Louis, quelle est la vraie signification du mot aléa?
Flora, pour répondre à ta question, un aléa, c'est un événement dépendant du hasard, une éventualité presque toujours défavorable. Pour répondre à nos questions, Flora a interrogé son père, Éric Duval, agriculteur de Moisé, petite commune d'Ille-et-Vilaine, sur ce sujet. Voici ce que nous en avons retenu.
Les types d'aléas que les agriculteurs rennais peuvent rencontrer sont les aléas climatiques en rapport avec la météo, les aléas économiques, les aléas de la faune sauvage, etc. Mais pour les aléas climatiques, nos agriculteurs font face à la sécheresse l'été et l'hiver, ils doivent faire face au froid, le gel, mais aussi à l'humidité, c'est-à-dire un excès d'eau sur une culture. Plus précisément, c'est une inondation.
Concernant les aléas économiques importants aujourd'hui, car ils sont liés aux événements en Ukraine, nous pouvons retenir l'augmentation des prix, celui du fioul nécessaire au fonctionnement des tracteurs, celui de l'engrais et celui des aliments, comme par exemple les céréales nécessaires pour nourrir les animaux. Sur ce point économique, nous pouvons également rajouter que l'État essaye d'aider les agriculteurs en leur proposant quelques aides financières, par exemple les subventions de la PAC. Flora, est-ce que tu peux nous préciser ce que signifie la PAC ?
Alors Louis, la PAC, c'est la politique agricole commune. Elle est mise en œuvre par l'Union européenne et a pour but de soutenir les agriculteurs des États membres.
Malgré les quelques efforts de l'État, la plupart de ces aides n'aboutissent à rien, car ces fonds ne sont pas bien répartis dans toutes les exploitations françaises, ou bien car ils ne sont pas assez importants pour combler le manque d'argent de certains agriculteurs.
Les animaux sauvages sont aussi nuisibles pour les agriculteurs. Ils cassent les fils, ils mangent les cultures et détruisent les terres. Ces animaux sont, en grande partie, les sangliers, les chevreuils ainsi que les corbeaux.
Pour faire face à tous ces aléas compromettant leur travail, Éric et les agriculteurs en général y font face avec du courage, de l'adaptation, des changements de technique, de la motivation ainsi que de la persévérance. Néanmoins, ils ont aussi besoin d'argent pour mettre en place de nouvelles infrastructures, des nouvelles techniques, car être agriculteur ce n'est pas un simple métier, c'est un choix de vie.
Cependant, selon l'endroit, l'environnement et le type d'élevage, les agriculteurs ne rencontrent pas tous les mêmes aléas. Par exemple, en début d'année, une vague de froid et un violent épisode de gel ont touché de nombreuses régions, notamment le sud-ouest de la France. Pour faire face à cet aléa météorologique, ces agriculteurs ont dû placer des bougies au pied des vignes afin de garder une bonne température pour éviter le gel.
Merci pour votre écoute. On espère que cela pourra faire changer certaines mentalités. C'était Flora, Romane et Louis sur votre radio CELAB.
Radio CELAB.
Le quiz.
Bonjour à tous, aujourd'hui avec Melvin, Raphaël, Léon. Comment ça va l'équipe ?
Ça va.
Et moi-même, nous allons vous présenter un célèbre artiste. Il est né au 19e siècle et mort au 20e siècle à Rennes. Il est issu d'une dynastie d'artistes italiens. Son nom rime avec Cocorico. Il est célèbre grâce à ses nombreuses mosaïques que l'on peut admirer dans Rennes. Vous l'avez sûrement reconnu, nous parlons d'Isidore Odrico, célèbre mosaïste. Nous allons demander quel est l'impact de l'artiste dans l'architecture rennaise. D'abord Léon. Dis-moi, qu'est-ce qu'une mosaïque ?
La mosaïque est un assemblage de petits morceaux de carrelage multicolores, juxtaposés de façon à former un dessin retenu par du ciment. Cette technique est très ancienne, elle date de l'Antiquité.
Et Léon, où peut-on voir les mosaïques d'Odrico à Rennes ?
Par exemple, à l'immeuble Poirier, portant le nom de son architecte Jean Poirier, la façade de cet immeuble du 7 avenue Janvier a été rénovée en 2016 et 2017 par une autre famille de mosaïstes italiens. La résidence universitaire, historiquement celle des filles Jules Ferry et celle des garçons Sévigné, leurs halls sont tapissés de sublimes mosaïques grises et rouges dans l'un et marron et jaune dans l'autre. La salle de bain Sphinx. Sur le quai, une maison possède une salle de bain privée incroyable ornée de sphinx. Plus de 50 salles de bain privées décorées par Odorico ont été recensées dans ces maisons et appartements rennais. Ensuite, l'ex-magasin Valton. La façade remarquable de ce commerce est située au 9 rue d'Entrain, aujourd'hui le magasin Crazy Republic. Et enfin, la magnifique piscine Saint-Georges de rue Gambetta, sur laquelle on va s'attarder plus longtemps. Dis-nous en plus, Raphaël.
C'est le bâtiment rennais emblématique de la mosaïque Odorico. L'intérieur des murs jusqu'au fond du bassin est recouvert de mosaïques dégradées de bleu, si chères à Isidore Odorico. La devanture de la piscine fait penser à un monument, un musée. Les mosaïques sont de couleur or et rouille. Elles brillent dans le soleil. D'ailleurs, la piscine est classée monument historique en 2016. Vous pouvez peut-être vous demander pourquoi l'on passe la musique des buts du Stade Rennais. Melvin va vous expliquer.
Vous ne le savez peut-être pas, mais il y a un lien très fort entre Odorico et le Stade Rennais. Il a été joueur dans l'équipe du lycée des garçons de Rennes, qui maintenant est le lycée Émile Zola. Puis il a joué au Stade Rennais Université Club de 1912 à 1925, où il a gagné enfin sa place en Ligue 1. Il s'implique dans la gestion du club, dont il sera président de 1931 à 1938. D'ailleurs, le SRFC a rendu hommage à Odorico sur le maillot du stade de la saison 2020-2021 où sont représentées des formes géométriques rappelant certaines de ses mosaïques. En 1931, Isidore prend la présidence du club et le célèbre centre de formation du club porte le nom d'Isidore Odorico. Pourquoi ne pas aller sur les pas d'Odorico ce week-end ? Merci de nous avoir écoutés, une excellente journée à vous.
Les origines du rap.
Les origines du rap.
Bonjour, nous vous retrouvons sur la radio CELAB. Elia, Eva, Naïs et moi-même sommes réunis pour parler du sujet suivant, les origines du rap. Plus précisément, nous allons réfléchir sur l'évolution du rap français.
Léonie, pourrais-tu nous en dire un peu plus sur le rap ?
Le rap est un style de musique soutenant un angle américain. Sa particularité réside dans son style de diction mi-parlée, mi-chantée et ses nombreux bruitages. Ce type de musique est né dans les ghettos noirs américains à l'époque des Black Panthers, 1966. Le rap apparaît en France au début des années 1980 et est diffusé parfois sur des radios clandestines. Ses thèmes sont la politique, le racisme, le harcèlement, la révolution, plein de sujets pouvant faire passer des messages à son public.
Eva, est-ce que tu sais la différence entre le rap d'aujourd'hui et d'hier ?
Le rap d'hier et les premières tentatives du rap sont Plastic Bertrand et Gérard Presgervic, accompagnés de Valier dans les années 1980. Ils ont eu un chagrin d'amour, ce qui les a inspirés. On peut penser au titre « Chacun fait ce qui lui plaît ». Ils ont intégré des variétés par les chantés. Je vous propose d'écouter un extrait de la chanson « Chacun fait ce qui lui plaît ».
Qu'est-ce qu'elles ont à me dire les étoiles ? 6h du mat', faut que je trouve à boire. Liqueur forte ou café noir. Je brûle un feu rouge, police patrouille. Je serre les fesses, y'a rien qui presse. 4, 5 francs maraudes, crie le petit chose dans le matin rouge. Car mon nom dit sous ses gonds.
Elia et Naïs, pouvez-vous nous dire ce qu'est le rap d'aujourd'hui ?
Le rap d'aujourd'hui, c'est une palette musicale d'expressions qui n'a jamais été aussi diversifiée. Des artistes d'univers différents, des concepts de rap aux antipodes. Les plus jeunes s'abstiennent à peine de 2 ou 3 mots et se contentent de raconter leur quotidien. Voici le top 10 des rappeurs les plus écoutés d'aujourd'hui, date de ce classement décembre 2021. En numéro 1 se trouve le rappeur Jul, suivi de Ninho, puis de SCH, Damso, Naps, Booba, PNL, Jaja et Dinaz, PLK et Nekfeu.
Ces rappeurs soit décrivent leur vie, soit dénoncent la société d'aujourd'hui. Ceux qui décrivent leur vie, en exemple, sont Jul, PNL, Ninho, PLK. Ceux qui dénoncent le racisme, harcèlement, violence, en exemple, sont Nekfeu et Damso.
Ils font passer des messages forts et l'expriment dans leur musique. Et tout de suite, voici le son majoli du rappeur Jul.
Je l'aime bien cette girl, je crois bien que c'est mon coup de cœur. Elle se plaint que je reste au secteur. Pour moi, elle a peur, et franchement, t'es jolie. Et ce boule qui met dans l'insomnie. Je pense souvent à toi quand je m'ennuie. Et toi, tu es comment sans moi? Je vois que tu me parles plus. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui t'a déplu? Et qu'est-ce que tu veux que j'y fasse moi? Quand je la calcule pas, elle fait pareil. Ma jolie, elle attend que je serre.
On espère que vous aurez aimé et on espère vous retrouver bientôt pour un nouveau sujet de Radio sur Syllab. Restez connectés pour la suite.
Un jour, une femme.
Bonjour, aujourd'hui nous allons répondre à la question du jour, quelle est la place des femmes dans notre société?
Avec Naïs,
Maëline,
Elia,
Diana
et Léonie.
On enchaîne avec la minute histoire pour vous rappeler quand est-ce que les femmes ont commencé à être libres.
Les femmes ont enfin eu le droit de vote en 1944, soit un siècle après les hommes.
Puis est apparu en 1965 le droit d'exercer un métier sans l'autorisation de leur mari. Elles commencent donc tout juste à avoir leur indépendance.
Le 17 janvier 1975, les femmes ont obtenu le droit d'avorter.
Après cette minute d'histoire, nous allons vous faire écouter un discours violent d'un pasteur au Niger.
Qui t'amène à travailler dans les normes des choses, avec tes diplômes, ta place est à la cuisine. Avec ton doctorat, ta place est à la cuisine. Et à chaque fois que la femme n'est pas à la cuisine, il y a désordre.
Maintenant, place à nos avis. Je pense qu'avoir une mentalité comme ça actuellement, c'est vraiment déprimant. Ça prouve encore une fois que la femme est réduite à une bonne à tout faire.
Même si l'intégration de la femme dans la société a toujours été compliquée, des actions sont menées pour vaincre ces injustices. Mais je pense sincèrement qu'il y a encore beaucoup de choses à faire et surtout à changer.
Mon avis est que les femmes ont le droit comme hommes. La place de la femme n'est pas du tout à la cuisine. Je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à changer dans cette société.
Et le fond, une femme a le droit de faire ce qu'elle veut, les relations doivent être égales.
Je pense que la place de la femme n'est absolument pas à la cuisine. La femme et l'homme sont deux êtres qui doivent être et rester égaux. Une femme est libre d'être ce qu'elle est et donc libre de ses choix.
Voilà, c'est tout pour nos avis. Nous vous invitons à donner votre opinion sur notre radio. On se retrouve juste après la pub.
Chérie, viens voir ce que j'ai trouvé au supermarché. C'est incroyable, ça coûte presque rien et avec ça on lave le sol, la vaisselle, les carreaux et même les lainages. Génial, non?
C'est dommage qu'il n'ait pas pensé à le faire plus petit.
Entre nous, qui aime passer la serpillière? Pas moi. Et puis je suis passée à Swiffer Wetjet et c'est vraiment génial. C'est un balai tout en un. Il est prêt quand je le suis. La solution nettoyante dissout la saleté qui est absorbée et retenue au cœur de la lingette. J'ai plus qu'à profiter du reste de ma soirée. Swiffer, c'est la révolution du ménage.
La place de la femme dans la société a bien évolué, mais n'est toujours pas égalitaire. Les publicités sexistes choquent aujourd'hui, alors qu'à l'époque, celles-ci paraissaient normales. On se demande d'ailleurs si un jour on sera considéré comme égal à l'homme. En tout cas, le combat est loin d'être achevé.
Pour finir, nous allons vous donner 5 exemples de la vie courante et vous remarquerez que nous sommes entourés de préjugés sexistes.
Exemple, dans les catalogues de Noël, la page est rose pour les filles et bleue pour les garçons.
Voici un autre exemple. Une influenceuse en sport a récemment publié une vidéo d'elle à la salle de sport où elle soulevait un haltère de plus de 250 kg. Sur cette vidéo, nous pouvons voir deux hommes se tenant debout derrière elle. Ces deux individus parlent entre eux et on entend qu'ils disent « Ce n'est pas possible, comment elle fait, c'est truqué ?»
Ou encore si vous allez au McDonald's et que vous prenez un Happy Meal, vous avez le choix entre un jouet soi-disant fille ou garçon. Les jouets filles seront mignons et ils seront roses, colorés, pastels, tandis que les jeux garçons seront kaki, rouges, de couleur foncée. Ce sera des voitures, des Pokémon, des jeux qui combattent, ou encore avec des métiers d'action.
Pour les jeux quand une fille ne cuisine pas, c'est mauvais, mais quand un garçon ne cuisine pas, c'est normal. La plupart des gens pensent que les garçons doivent aller travailler et que les filles doivent rester à la maison et cuisiner, nettoyer, s'occuper des enfants. Mais les femmes ne devraient pas faire cet âme seule car elles ne sont pas des objets.
Lors de la kermesse de mon école, des enfants s'amusaient à la pêche à la ligne. Tout était bien organisé. Les jouets des filles étaient tous roses d'un côté, baguettes de princesse, couronne. D'un autre côté, pour les garçons, il y avait des épées de chevalier, voitures de course.
Pour finir, nous allons vous donner 5 exemples de la vie. C'est tout pour aujourd'hui, merci de votre écoute. On se retrouve demain à la même heure.
On vous laisse avec la musique pendant 24 heures de Grand Corps Malade et Suzanne.
Cette chance pendant 24 heures. L'ultime nuance vue de l'intérieur. Vivre cette chance pendant 24 heures.
J'enverrai un mail au taf en faisant les courses à Carrefour. J'aiderai les enfants au devoir en sortant la quiche du four. Avec eux je serai joyeuse avec mon mec femme fatale. 24 heures dans la peau d'une femme, je comprendrai la charge mentale. À 16h35 pile, j'arrêterai de travailler. Qu'après quand t'es une femme, eh ben t'es plus payé. Je sortirai en jupe quelques instants dans les transports pour comprendre l'essence même du hashtag balance ton porc.
Je boirai du whisky pour me mettre à l'aise. Sans coca, sans glaçons comme les mecs balèzes. J'irai draguer une fille mais y'aura pas de malaise. J'enverrai pas texto qui dit c'est quand qu'on baise. Je serai romantique.
La petite.
Je suis dans mon atelier à Rome, il y fait chaud, bien que j'ai ouvert toutes les fenêtres. Mes mains sont moites, le burin me brûle les mains, Les coups de marteau à répétition ont formé des cloques sur mes mains. Pourtant, je dois finir cette commande. Je suis fatiguée par ces journées de travail, mais je continue car je l'ai acceptée. Cela fait maintenant 13 jours que j'ai commencé et en ce moment, je sculpte la tête de la Vierge Marie dans le marbre. Je me dois de la faire la plus belle possible, avec un visage qui n'est pas triste, mais qui, les yeux fermés, accepte la mort de son fils le Christ. J'espère que le cardinal français Jean Villiers, qui m'a transmis cette commande, ne sera pas déçu.
Bonjour à tous, aujourd'hui, Éloane, Tilio et moi allons vous présenter une œuvre de Michel-Ange La Pietà. Éloane, est-ce que tu peux nous définir ce qu'est une Pietà ?
La Pietà, ou Vierge de pitié, est un thème artistique. Il représente la Vierge Marie, mère pleurant son fils Jésus-Christ, qu'elle tient sur ses genoux au moment de la descente de croix après la crucifixion et avant sa mise au tombeau.
Maintenant, passons à la description de l'œuvre.
Cette sculpture est taillée dans le marbre. Elle mesure 1,74 m de hauteur et presque 2 m de largeur. Elle représente la Vierge Marie qui tient son fils mort dans les bras. L'on peut voir aussi que le corps du Christ forme un S.
Nous pouvons constater que le bras droit du Christ tombe naturellement. Marie semble y répondre par le geste de son bras gauche en montrant sa main ouverte. L'on peut voir aussi que la Vierge Marie porte une longue robe alors que son fils, lui, n'a aucun tissu pour couvrir le bas de son corps.
Même s'il semble plus grand qu'elle, elle le porte comme un enfant. Une grande tendresse se dégage dans son attitude. Elle ne semble pas vraiment triste, elle ferme les yeux et semble sereine, concentrée sur le réconfort qu'elle peut apporter à son fils. Tous les deux semblent former un tout, un ensemble.
Voilà, on voulait vous faire partager cette œuvre d'art et n'hésitez pas à la découvrir sur Internet ou dans les livres, ou bien rendez-vous au Vatican de la Basilique Saint-Pierre.
Chronique historique.
Bonjour chers auditeurs et chères auditrices de CELAB, bienvenue dans Chronique historique. Aujourd'hui, nous allons parler du très célèbre Christophe Colomb et plus particulièrement des problèmes qu'il a rencontrés lors de sa première expédition en Amérique. Ensuite, nous parlerons des bateaux que Christophe Colomb a utilisés pour cette grande expédition.
Dès 10h le samedi, les productions des ateliers radio sont sur CELAB.
C'est quand on avait le casque, c'est qu'est-ce que j'ai préféré faire.
Dès 10h le samedi.
Comme vous le savez tous, Christophe Colomb a découvert l'Amérique en 1492. Mais rien ne s'est passé comme il l'avait prévu. Nous allons vous raconter l'histoire de ce voyage et les imprévus que Christophe Colomb a rencontrés.
Christophe Colomb est né en 1451 à Gênes, en Italie. Il est mort à Valladolid, en Espagne, le 20 mai 1506, à l'âge de 54 ans. Christophe Colomb a fait ce voyage car la route de la soie était bloquée par les Ottomans depuis la prise de Constantinople en 1453. Christophe Colomb essaya alors de passer vers l'ouest pour rejoindre Cipango, l'actuel Japon, pour le commerce. Il part avec son équipage et 3 bateaux. Même si Christophe Colomb était un navigateur expérimenté, il a commis plusieurs erreurs. Tout d'abord, il a sous-estimé la circonférence de la Terre. Il pensait qu'elle était de 30 000 km alors qu'elle est d'environ 40 000 km. Christophe Colomb pensait aussi que la surface de l'Asie et de l'Europe recouvrait 225 degrés sur le globe terrestre. En fait, ces continents ne recouvrent que 130 degrés. Ces erreurs ont faussé l'estimation de Christophe Colomb de plusieurs milliers de kilomètres, ce qui entraîna un manque de nourriture considérable. Certains marins furent même obligés de manger des rats. Certains marins sont d'ailleurs morts sur les bateaux de faim ou de maladie. Ce voyage fut donc très rude. Et maintenant, parlons des bateaux que Christophe Colomb a utilisés lors de son expédition.
Vous avez de la musique, là ?
Syllabe.
La radio sauvage.
Connaissez-vous les noms des 3 bateaux de Christophe Colomb ? Si vous ne le savez pas, nous allons vous le dire. Il y a tout d'abord la Santa Maria, puis la Pinta et la Niña. Christophe Colomb part avec ses 2 caravelles. La Pinta et la Niña. Le plus grand des bateaux était la Santa Maria, qui était le navire principal de la flotte. Le 24 décembre 1492, la Santa Maria s'échoue sur l'île de Haïti. Pour survivre, les matelots ont construit une petite maison avec les bois du bateau. La traversée de l'Atlantique fut une véritable prouesse technique, car à cette époque, il n'y avait pas de moteur. Seul le vent permettait de faire avancer les navires. Cela était beaucoup plus difficile, car les vents n'étaient pas toujours dans le même sens, et les courants marins pouvaient faire dériver les bateaux de leur trajectoire.
Malgré tous ces imprévus, Christophe Colomb a réussi la traversée de l'Atlantique en 36 jours de navigation. Son périple lui a permis quand même de découvrir un nouveau continent, l'Amérique.
Voilà, c'est déjà la fin de notre chronique historique. J'espère que cette émission vous a plu. Salut à tous et bonne journée.
Salut.
Syllab.
La radio sauvage.
Syllab, la radio sauvage.
Le samedi.
Nous, on a beaucoup aimé préparer cette émission pour vous.
Les ateliers de radio Syllab dès 10h le samedi.
Radio Syllab pour les ateliers.